Est-ce que Madame Somerville voudrait nous conduire dans la prière?
Seigneur notre Dieu, nous te prions pour que tu sois avec nous pendant cette réunion, que tu sois présent par ton esprit, que tu nous diriges et nous guides selon ta volonté. Ouvre nos cœurs à ta parole. Amen.
Amen. Notre séance d'aujourd'hui est la dernière que nous pouvons consacrer au sujet qui nous a occupé depuis si longtemps. Vous savez qu'à partir de la séance de janvier, notre groupe, plus ou moins remanié dans sa composition, sera pris en charge pour une série de 5 ou 6 fois par Georges Moukari sur le sujet de l'islam. Ce qui veut dire que nous devons aujourd'hui absolument conclure sur le sujet de la place de la femme selon l'Église, la place de la femme en particulier dans l'Église. Nous avons ensemble étudié un grand nombre de textes, des textes qui portent directement sur le sujet, d'autres textes qui ont une portée plus indirecte, et il nous faut tirer les conclusions. Je voudrais tirer mes conclusions personnelles d'abord de manière brève, et ensuite vous laisser la parole. En fin de séance, selon le temps qui nous restera, nous pourrions envisager les incidences les plus pratiques sur la vie au tabernacle des frères et des sœurs, sur la place que nos sœurs en particulier peuvent jouer dans l'Église. De toute façon, je souhaiterais pour ma part que notre travail débouche sur quelque chose qui puisse être présenté à l'Église tout entière, et sur des modifications éventuelles de ce qui se passe dans l'Église. Il me semble qu'il serait regrettable que notre conclusion de cette séance de troisième groupe de l'Institut biblique soit un point final quant au tabernacle de toutes nos réflexions sur le sujet. J'espère que d'une manière ou d'une autre, nous pourrons alors avoir comme un rebondissement au profit de l'Église tout entière, du travail que nous avons fait ensemble. Vous vous rappelez que j'avais défini 4 modèles qui sollicitent les suffrages de nos contemporains et de nos contemporaines sur la place de la femme en général. Je les avais définis au début en les appelant le modèle inégalitaire, qui est le modèle le plus traditionnel, le modèle identitaire, qui affirme que la différence n'est que très superficielle et purement culturelle, le modèle bipolaire, qui considère que la dualité du masculin et du féminin est comme un ordre cosmique selon lequel tout est polarisé, comme dans le système chinois taoïste, entre une énergie masculine et une énergie féminine, et le modèle indépendantiste, tendance anarchiste, qui correspond à la gauche du mouvement féministe contemporain. Chaque sexe étant absolument indépendant, aucun ordre n'étant admis, l'idée de complémentarité même étant refusée. J'avais évoqué des auteurs comme Hélène Cixous ou Marie-Odile Métral à ce propos. Alors, maintenant que nous avons fait notre étude biblique, que pouvons-nous dire de ces différents modèles? Je commence par le dernier, je les prends dans l'ordre inverse de celui que j'avais utilisé pour les présenter, parce que ce dernier paraît d'emblée le plus opposé à la mentalité biblique. Sa revendication d'indépendance, son refus de toute pensée d'ordre, est typique d'une sensibilité anarchiste assez répandue aujourd'hui, mais il semble assez évident que nous sommes en opposition diamétrale avec l'accent biblique sur l'ordre du Seigneur qui est bienfaisant sur la place de l'humanité comme liberté seconde sous le commandement divin pour son bien. La prétention à l'indépendance paraît presque le ressort même du péché dans l'Écriture. Donc il nous semble d'emblée que ce quatrième modèle est contraire à la révélation biblique. Cependant, je voudrais remarquer que sur 2 points, il y a comme une convergence entre ce quatrième modèle contemporain indépendantiste et ce que j'ai cru voir dans l'enseignement biblique. D'abord, il me semble important de préserver l'idée que chaque individu, quel que soit son sexe, est en rapport immédiat avec le Seigneur. Et il y a dans la passion anarchisante de celle qui milite pour le quatrième modèle, je crois, le sens juste qu'aucune personne humaine ne peut être comme coiffée en ce qui concerne le sens dernier de la vie, les rapports avec l'absolu, peut être coiffée par quelqu'un d'autre, et en particulier la femme par une autorité masculine. Il me semble qu'il y a dans la revendication d'indépendance, si outrée et déviée qu'elle soit, comme le sens juste que tout individu humain, et toute femme en particulier, est directement face à son Seigneur quant à sa destinée éternelle. Et d'autre part, il me semble que l'accusation de la notion de complémentarité, qui est caractéristique de ce quatrième modèle, mérite d'être entendue. Il est vrai que la notion de complémentarité a été un moyen facile pour faire taire toute protestation à l'égard des injustices, que c'était une façon élégante, souvent, qu'on a employée pour préserver des situations acquises, des privilèges acquis et des oppressions établies. Et que, curieusement, la notion de complémentarité, si elle n'est pas totalement absente de l'écriture, je crois quand même qu'on peut l'y trouver, nous l'avons dit, n'est pas en première ligne dans l'écriture. L'idée de l'homme et de la femme comme complémentaires n'est pas énoncée tout à fait en clair, et c'est plutôt l'idée de correspondance qui me semble apparaître, pas tout à fait la même chose, et l'idée d'ordination à l'autre, le fait que l'homme et la femme sont en tant que tels créés pour le rapport à l'autre sexe. Voilà ce qui me paraît correspondre à la révélation biblique à cet égard, et ce n'est pas tout à fait l'idée de complémentarité. Le modèle bipolaire, le modèle quasi taoïste dont j'ai parlé, justement me paraît à critiquer sur ce point. Il fait de la notion de complémentarité la notion clé. Tout est vu comme si la réalité consistait en deux moitiés qui sont donc faites pour réaliser un tout à elles deux, sans qu'il y ait de situation propre d'une moitié à l'égard de Dieu. Et les extrapolations philosophiques de ce modèle bipolaire, alors, sont carrément dualistes. Il y a deux principes ultimes pour toute la réalité. Et ça s'oppose, alors, carrément à l'écriture. Selon l'écriture, il n'y a qu'un seul principe de toute réalité. C'est le Seigneur, c'est le Dieu unique. Le taoïsme, précisément, avec le yin et le yang, est une philosophie du monde profondément païenne, qui est radicalement opposée à l'écriture comme philosophie, comme vision du monde. Je crois que ça doit nous avertir à l'égard de la séduction de ce modèle bipolaire. Masculin et féminin ne doivent pas être pris comme deux principes derniers dans une espèce d'équilibre dualiste. Cependant, il me semble qu'on ne peut pas nier que le masculin et le féminin, selon l'écriture, correspondent à une différenciation assez fondamentale de l'humanité et qui a des attaches avec la structure même du réel. Une correspondance, j'y reviendrai dans l'énoncé des thèses positives que je propose, une correspondance avec le rapport même de Dieu et du monde, puisque le symbolisme constant de l'écriture est un symbolisme où le masculin sert pour symboliser, pour figurer le rôle de l'Éternel à l'égard d'Israël, du Seigneur Jésus à l'égard de son Église. Et le féminin sert pour l'épouse de l'Éternel, l'épouse de l'agneau. Le modèle identitaire veut ignorer justement que la différenciation du masculin et du féminin est fondamentale pour l'humanité. qu'elle a été créée par Dieu comme une disposition d'une importance première. Et c'est sur ce point que le modèle identitaire, celui de Simone de Beauvoir, me semble s'opposer le plus clairement à l'écriture. Cependant, ce qui est à en retenir, me semble-t-il, c'est l'idée que l'homme et la femme possèdent une même et unique nature. Même si Simone de Beauvoir n'aime pas, comme disciple de Sartre, l'idée de nature humaine, disons, nous en emploierons quand même, pour dire que c'est sur ce point qu'il y a convergence entre le modèle identitaire, l'homme et la femme sont essentiellement semblables, et la présentation biblique. Ou précisément, je crois que c'est la similitude qui est spécialement soulignée en Genèse 2, vous vous rappelez, et dans bien d'autres passages encore. L'homme et la femme diffèrent, mais leur différence, si fondamentale qu'elle soit, est relative. J'y reviendrai. Ils sont d'abord deux humains, possédant l'un et l'autre entièrement la nature humaine. Quant au modèle inégalitaire, celle qui correspond à beaucoup de formulations traditionnelles et qui est particulièrement désagréable aux oreilles féminines, je pense qu'on peut aussi en dire qu'il est désagréable à des oreilles formées à l'écoute de la Bible, que cette idée d'une inégalité, d'une infériorité de la femme à l'égard de l'homme, parce qu'elle serait moins ceci et cela, dans l'ordre des vertus et des qualités, que ce modèle-là ne correspond pas à la vision biblique, ne correspond pas tout spécialement à l'honneur que Jésus a tenu à montrer, à manifester à l'égard des femmes de son temps. Cependant, là encore, et il nous faut oser dire cette conclusion, en tout cas ce serait la mienne, ce modèle correspond, converge avec les données bibliques en ce qu'il reconnaît une dissymétrie dans le rapport homme-femme. Contrairement au modèle bipolaire, je crois que le modèle biblique ne considère pas que l'homme et la femme, dans leurs différences, sont deux termes d'une structure symétrique. En particulier en ce qui concerne la dévolution de l'autorité, des rôles d'initiative et de gouvernement, il me semble que l'écriture, là, suggère une dissymétrie de la manière la plus nette. Et je lutte pour écarter l'idée d'inégalité de valeur, d'infériorité de cette dissymétrie. Je crois qu'il ne faut pas confondre. Cependant, il faut reconnaître une dissymétrie dans le modèle biblique. Ce que ne font aucun des trois autres modèles critiqués juste auparavant. Voilà en ce qui concerne la situation par rapport à ces quatre modèles. Alors maintenant, j'énoncerai comme thèse biblique les thèses suivantes, qui correspondent, mais comme l'avers de cet envers qui était la critique des modèles contemporains, j'énoncerai comme thèse biblique les thèses suivantes. D'abord, l'écriture souligne à la fois la co-humanité de l'homme et de la femme et leur différenciation essentielle. Il y a quelque chose de paradoxal dans cette association. Il est difficile d'affirmer à la fois l'homme et la femme sont humains au même titre et au même degré et dire pourtant leur différence et n'est pas très superficielle qui pourrait ne pas compter dans leur rapport, dont on pourrait en quelque sorte se désintéresser. Il me semble que l'écriture nous impose à la fois l'une et l'autre accentuation, et déjà dans Genèse 1. En image de Dieu, il les créa, mâle et femelle. Les deux choses, dans ce résumé des résumés concernant l'humanité, les deux choses sont dites. Deuxième thèse, elle aussi de caractère paradoxal, et mes quatre thèses, je leur donne ce caractère double qui confine au paradoxe. À la différenciation des sexes correspondent des qualifications différentes, selon l'écriture, mais La différence est surtout une différence dans les rôles de représentation. D'après ce qui me semble possible de conclure de l'écriture, certes, il y a entre l'homme et la femme des différences dans les qualifications que tu as données. En gros, cela apparaît, et le thème de la faiblesse, qui dans 1 Pierre 3 est clairement exprimé à propos du sexe féminin, signifie, me semble-t-il, différence dans les qualifications. Et il y a dans le livre Le Fait Féminin, qui représente une position minimum à cet égard, parce que les méthodes positivistes d'étude impliquent que l'on ne peut dire vraiment que ce qui est absolument contraignant à la lumière de faits mesurés et mesurables, n'est-ce pas ? Il me semble que les données du fait féminin que nous avons évoquées tout au début vont tout à fait dans le sens de cette différenciation qualificative. Le mot de faiblesse ne signifiant pas une infériorité en la matière, me semble-t-il, mais un autre type de sensibilité, de qualification générale, qui représente un avantage pour certains rôles. Cependant, regardant la Bible dans son ensemble, je me dis, mais c'est incroyable comme il y a peu sur ce chapitre. En dehors de ce texte, 1 Pierre 3, si quelqu'un voulait contester, on ne trouverait pas grand-chose. C'est quand même quelque chose, un fait biblique surprenant quand on pense à tout ce qui s'est écrit au fil des siècles, dans toute l'Antiquité, etc., sur ces différences. C'est une discrétion extrême que nous montre la Bible à ce propos. Et les différences de rôle me semblent rattachées davantage au fait que l'homme a pour mission de représenter le Seigneur, selon ces règles d'analogie que nous avons vues, et la femme de représenter le peuple de Dieu, l'Église. Il me semble que l'Écriture nous enseigne à regarder plutôt de ce côté-là, si nous voulons expliquer pourquoi Paul dit ceci, cela, dans les textes que nous avons vus. Ce qui est contraire à la logique habituelle des réflexions sur ce sujet, en dehors de la Bible, ce qui me paraît un point de vue typiquement biblique. Je vous avoue que ma pensée sur ce point a évolué depuis le temps où j'ai commencé de travailler ce sujet. Et que j'ai été contraint à évoluer vers l'idée que la notion de représentation est vraiment la notion clé pour expliquer la différence que fait la Bible. Troisième thèse de conclusion pour moi. Cette fois, on va un peu plus loin vers la pratique, si vous voulez. Les stéréotypes sont utiles, les stéréotypes culturels, mais ne doivent pas constituer des entraves absolues, en quelque sorte, impossibles à briser de la liberté que nous avons dans le Seigneur. De nouveau, vous voyez une thèse double. Bon, les stéréotypes véhiculés par la culture, ils accentuent les différences, à n'en pas douter. La nature humaine chez l'homme et chez la femme est plastique. C'est le propre peut-être de la nature humaine comparé à celle de la plupart des espèces animales, d'être d'une plasticité incroyable, une capacité de s'adapter à des situations diverses. Alors, les cultures, jusqu'à la nôtre, non compris peut-être, les cultures ont tendu à créer des stéréotypes qui accentuent les différences dans les rôles. Là où l'homme a en général, si vous voulez, une qualification légèrement supérieure, par exemple, pour tel rôle, eh bien, le stéréotype culturel fait que ce sera un rôle uniquement masculin. Et la culture pousse dans ce sens, cette aptitude, peut-être légèrement supérieure au départ, et par l'éducation, par la mentalité, etc., accentuée très fort, l'aptitude correspondante chez la femme, qui était juste de manière innée, légèrement moins prononcée, est complètement réprimée, du coup elle reste un peu en friche, et l'effet des stéréotypes présentait une différence bien plus considérable. Alors je dis que ces stéréotypes sont en soi utiles. Voilà, ça peut paraître assez scandaleux pour pas mal de contemporains, et de contemporaines en particulier. Mais je le dis à la suite de, je résume, de deux ou trois pensées. D'abord, il ne me semble pas que la Bible lutte contre eux, en général. Ils sont acceptés, ils sont assumés. Si Dieu, dans sa sagesse, n'a pas voulu lutter contre ces stéréotypes, malgré les occasions d'injustice individuelle qu'ils sont, il me semble que c'est parce qu'en gros, pour la vie d'une société, ils ne sont pas négatifs, mais plutôt utiles. Et alors, j'essaye de l'interpréter, cela, je dis, eh oui, parce que rien n'est plus angoissant que l'indécision, que le flou. Aussi bien pour l'individu au moment où il se cherche, dans la période de l'adolescence en particulier, il a besoin de trouver une identité, que pour la société, où il est avantageux qu'il y ait une répartition des rôles, qu'il n'y ait pas compétition trop large pour les mêmes rôles, où on gaspille de l'énergie. Alors il est avantageux pour la société qu'un stéréotype accentue une aptitude innée légèrement supérieure. Que ce sont ceux qui ont cette aptitude de manière légèrement plus accentuée, qui l'est sans discussion, c'est avantageux. Bien sûr les autres, parce que leur aptitude est presque aussi grande, pourraient discuter, mais au fond on perdrait son temps à discuter. Le stéréotype, là, a une fonction d'efficacité sociale. Et un des effets de ces stéréotypes, c'est de permettre, disons que la fonction de maternité soit, disons, plus facilement, je parle en termes, disons, sociaux, soit plus facilement assumée par la femme, fonction de maternité sans laquelle les sociétés humaines se détruiraient. Oui. Donc, je dis, les stéréotypes en soi sont utiles. Mais il n'y a pas d'autres qui peuvent devenir des carcans, des chaînes, et que l'Écriture ne les sanctifie pas comme si c'était des réalités sacrées, immuables, qu'on ne puisse pas retoucher. Et il me semble que le message de la liberté que nous avons dans le Seigneur signifie que nous n'avons pas à considérer ces stéréotypes comme l'expression d'une volonté absolue, immuable du Seigneur qui s'imposerait à tout individu. C'est le thème de la liberté chrétienne que j'évoquerai plus spécialement à cet égard. Et le quatrième point se conjugue avec le précédent. Je crois que nous avons à considérer la différenciation des rôles parce que l'homme va représenter l'Éternel, le Christ, la femme va représenter le peuple de Dieu, l'humanité qui, en alliance avec Dieu. Je crois que cette différence des rôles est instituée par Dieu, que nous sommes invités par les textes de l'apôtre Paul en particulier à le considérer ainsi, que ça a un caractère donc normatif, c'est pas un simple effet d'une culture à un moment donné, mais cependant je crois que la relativisation de cette différence est légitime. Alors là, de nouveau, ça est un paradoxe. Je dis, c'est une institution divine, et pourtant, je suis prêt à la relativiser. Je la relativise quant à l'application. Je crois que l'Écriture nous invite à dire, oui, Dieu a institué les choses comme ça, mais c'est en gros, c'est en répartition des qualifications de manière diverse. Mais Dieu ne se sent pas lié par là. Et il ne veut pas que ses enfants soient liés dans tous les cas particuliers individuels de vocation, soient liés par cette disposition générale, cette grande règle structurelle qu'il a établie pour l'humanité. Il me semble que nous sommes en face d'une structure établie par Dieu et qui doit jouer en gros, mais pas forcément toujours en détail, que Dieu a la liberté de faire ce qui sera contraire à l'ordinaire, qui sera de l'extraordinaire au sens propre du terme, si cela lui plaît. Alors, c'est comme ça, je vous le confesse, que je m'en tire devant ce qui serait autrement une apparente contradiction. D'une part, certains rôles féminins de direction, d'autorité, ça me paraît indubitable, si vous voulez, tout se résume dans le mot de Déborah, mais elle n'est pas la seule, c'est quelque chose que l'on voit aussi dans le Nouveau Testament. Et puis, les textes de l'apôtre Paul, et du début de la Genèse, en fait, tels que nous avons dû les interpréter. Il me semble qu'il faut comprendre que ces textes concernent une manière d'ordonner de façon générale les rôles masculins et féminins, en fonction des différences de qualification et des rôles représentatifs, mais que Dieu garde la liberté de faire de l'extraordinaire en la matière. Ce qui veut dire que notre attitude, fondamentalement ayant recueilli l'enseignement biblique, doit être une attitude moins crispée, moins rigide qu'elle n'a été dans le passé de la tradition chrétienne. Même les textes de Paul, je ne crois pas qu'il faut les prendre comme des espèces d'articles de code qui rendraient impossible qu'une femme exerce un enseignement d'autorité. Je pense là à 1 Timothée 2 que nous avons étudié la dernière fois. Il me semble que c'est une directive générale que lance l'apôtre Paul, mais que l'analogie de l'ensemble de l'écriture, le contexte global de l'écriture sur le sujet, nous invite à dire, mais Dieu peut faire une exception. Et au rythme qu'il veut, lui, n'est-ce pas? Sans compter, donc, les possibilités de dégrader. Qu'est-ce qu'un enseignement d'autorité? À partir de quel moment l'enseignement devient d'autorité, etc. Vous voyez, une souplesse nous est permise, là. Je crois vraiment que nous y sommes invités, à cette souplesse, par l'ensemble du témoignage biblique. Et si j'arrive à ce point, quatrième conclusion, et dernière conclusion, c'est parce que je pense que les considérations précédentes me le permettent. Le fait que les qualifications ne soient pas si différentes, bien qu'elles soient différentes, qu'en tout cas la Bible ne mette pas tellement l'accent dessus, que les stéréotypes y soient admis, mais sans que la liberté chrétienne soit abolie. Tout ça me semble impliquer cette relativisation de la manière d'appliquer la grande règle instituée par Dieu. Voilà ce à quoi personnellement j'aboutis. Alors je ne touche pas encore ce qui pourrait être dit à propos de notre Église, qui est dans une situation de toute façon assez spéciale, du fait qu'elle a eu, bien avant que les mouvements féministes se soient tellement déployés, un pasteur femme, comme vous le savez, mais qui, je pense, l'a un peu oublié à certains égards, etc. Alors, je n'empiète pas sur ce terrain-là. Peut-être pourrons-nous, avant la fin de l'heure, y venir. Mais maintenant, je vous laisse la parole. Quant aux conclusions, vous pouvez aussi revenir, bien sûr, sur des choses dites dans les dernières séances, sur tel ou tel point d'exégèse. Parce que malheureusement, nous avons manqué de temps en général pour que les dissentiments éventuels des uns ou des autres puissent s'exprimer.
Une question juste d'explication.
Oui.
Quand vous avez parlé de la deuxième phase de conclusion, vous avez parlé du qualificatif, qualification.
Oui.
Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce terme, parce que je ne pour le distinguer de la quatrième thèse.
C'est pas la quatrième thèse concerne le caractère même de la différence faite par Dieu. Alors, dans la deuxième thèse, c'est-à-dire d'institution divine, mais cependant relativisable dans l'application. La deuxième thèse concerne le contenu de cette différence. Est-il d'abord une différence dans les qualifications, les qualités? Alors, par exemple, l'homme plus rationnel, la femme plus sensible, etc. Enfin, ça, c'est le stéréotype qui a été très longtemps admis. Eh bien, j'observe que la Bible en dit très très peu. Je crois qu'elle ne l'exclut pas, l'idée d'un ensemble de qualifications quelque peu différentes. Et j'ai évoqué un Pierre 3, mais finalement, si je cherche dans ma Bible, je ne trouve pas grand-chose sur ce point. Ça me paraît assez... Je trouve même moins, je dirais, que dans le livre Le Fait Féminin, sur lequel je me suis assez appuyé. Que vous vous rappelez, donc, tous n'étaient peut-être pas là au tout début, n'est-ce pas? Il s'agit du gros volume avec les résultats d'un colloque réuni par Evelyne Sullereau, en particulier, et des savants, là, hommes et femmes, de tendance positiviste en général, c'est-à-dire refusant toute idéologie si possible, toute influence de considération générale, s'en tenant aux choses mesurables, ont essayé de délimiter ce qui était le propre féminin, et je vous ai fait des citations qui semble montrer qu'il y a une certaine différenciation. Il y a une imprégnation hormonale du cerveau, par exemple, au cours de la grossesse, dans les premiers jours, tout spécialement dans les premiers jours après la naissance, qui implique un développement cérébral différent. Les deux moitiés du cerveau ne se comportent pas de la même façon, par exemple. Il y a un avantage féminin nettement du côté des facultés langagières, un avantage masculin très net du côté de la perception de l'espace, des repérages dans l'espace, de tout ce qui se référera à la mécanique, par exemple, etc. Il y a des différences qui vraiment semblent maintenant, indépendamment des stéréotypes culturels, vraiment mesurées. Je pense qu'il ne faut pas exclure cette notion-là, mais j'observe que la Bible n'insiste pas là-dessus du tout. Pas là-dessus qu'elle insiste. Elle insiste, me semble-t-il, davantage sur un rapport d'analogie. Monsieur Froch, oui.
Je ne sais pas si vous l'avez abordé, mais c'est le problème de l'autorité dans le couple, autorité et soumission dans le couple. Parce que je suis tout à fait d'accord au niveau de l'Église, enfin, dans les rapports d'un homme et d'une femme qui ne sont pas mariés, mais dans le mariage, il y a quand même un ordre que Dieu a établi. Et je ne sais pas si on peut parler d'exception aussi au niveau du couple. Là, j'ai un petit peu peur que certains comprennent mal.
Oui, alors, remuez l'écharpe dans la chair, ou bien vous me piquez une épine à l'endroit sensible en disant ça, parce que bon, je vous avoue que sur ce sujet, nous n'avons pas tellement traité, voulant voir la place de la femme très en général et dans l'Église, donc nous n'avons pas étudié le mariage comme structure propre, eh bien je dirais que là je suis quelque peu hésitant. Je suis en tout cas persuadé que l'idée de relativisation joue en la matière, qu'il s'agit de plus et de moins, d'une différence de degré, et non pas de tout blanc, tout noir, si vous voulez, de l'homme qui prendrait toutes les décisions, et puis la femme, béni oui, c'est ça, je suis sûr que c'est pas ça. Bon, mais peut-il y avoir cette exception, ce régime extraordinaire? J'avoue que là, j'hésite davantage. Franchement, devant certaines situations pastorales, disons, là, j'ai tendance à dire « Oh oui !» Là, manifestement, cet homme est incapable d'assumer le rôle de chef du foyer, du chef de la femme, disons, dans l'expression biblique. Et, bon, cette femme, Dieu l'a douée de capacités qui, ordinairement, sont plutôt viriles, et elle est vraiment en mesure de le faire. Donc Dieu fait une exception. Vous voyez, pastoralement, je suis très tenté d'aller dans ce sens. Mais, en même temps, il me semble que ça peut être une excuse, que ça peut... les textes bibliques sont particulièrement appuyés sur ce rôle masculin, avec l'idée de représentation qui ne s'accommode pas facilement d'un renversement. Il faut bien le reconnaître. Et... il y a aussi une expérience pastorale qui va en sens contraire de celle qui me tenterait. Je me rappelle en particulier des remarques de mes cousins Philippe et Nancy de Corvey, qui font beaucoup de cures d'âme de couples, de familles, ils font des camps familles, etc., ou ce genre de problèmes interviennent sans cesse. Et il semble que dans un bon nombre de cas, la voie de salut pour le couple en cause ait plutôt été... De réaffirmer l'ordre biblique, même si l'homme en paraissait incapable dans le couple, et cela, par la grâce de Dieu, a pu l'amener à la capacité voulue. Bon, alors, vous voyez, je vous confesse que je suis tiraillé. J'ai du mal, personnellement, à croire que c'est dans tous les cas possible. Et en même temps, bon, je reconnais que sur ce point, c'est à mes risques et périls que je conseillerais de renverser l'ordre biblique. Parce que la Bible ne semble pas le prévoir dans aucun passage. Et c'est peut-être un pas de foi à faire que de dire cet homme, malgré ce qui paraît une infériorité individuelle à l'égard de la tâche, de la mission en cause, eh bien, il faut croire que Dieu veut lui donner la capacité s'il la lui demande.
Moi, je dis ça par rapport au séminaire de vie chrétienne qui a été donné ici, et on a eu des fruits, ne serait-ce que dans l'Église et même en dehors de l'Église, où des hommes se sont rendus compte de ce qu'ils étaient, si vous voulez, qu'ils n'étaient pas dans leur position, et que leur femme était au contraire dans une position qui n'était pas la leur, et ça s'est rectifié. Il y a des foyers qui reprennent leur place. Quoi.
Oui, oui. Et je signale que j'ai eu une interpellation c'est un missionnaire américain en fait, il est dans le midi de la France, là, assez récemment, sur ce point, qui m'a touché. Parce qu'il me disait, mais là, je vois la situation dans essentiellement les ghettos noirs américains. Les ghettos noirs américains. Dramatique. Parce que là, c'est devenu le stéréotype culturel, ce sont les femmes qui gouvernent. Les hommes se sont laissés aller, souvent d'ailleurs, ce sont des couples qui ne sont même pas mariés, ils ont abdiqué leurs responsabilités, comme fait culturel sur plusieurs générations. Et ce sont les mamas, comme on les appelle, qui assument, effectivement. Alors, je vois, moi, comment les jeunes garçons, dans une telle situation, se trouvent, me disait-il, vraiment tordus. Ils ont ce stéréotype qui s'est imposé à eux. Qu'est-ce que je dois faire ? Si j'accorde que lorsque l'homme paraît inapte, démissionnaire, et bien là c'est à la femme, Dieu l'approuve, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, m'interpellait ce missionnaire dans une telle situation. Et ça détruit la virilité de ces, au sens biblique en particulier, de ces jeunes garçons. Enfin, j'avoue que ça c'est un gros problème. Monsieur Moser.
En vue de l'autorité, justement, vous parliez de. Le tabernacle avait eu une femme pasteur. C'est vrai, mais il faut considérer que du temps du vivant de son mari, cette femme est toujours restée en dessous de lui. Elle n'a jamais supplanté son mari. Ce n'est que le jour où son mari est mort qu'elle s'est sentie appelée par Dieu à suivre en somme la tâche que son mari ne pouvait plus assumer pour cause. Mais du temps du vivant de son mari, elle n'avait pas l'autorité qu'elle a eue après.
Mmh. Oui.
Elle a donc gardé sa place de femme, en somme. Mmh.
Pour une part, oui, je crois qu'il est bien vrai que l'Église a été conduite dans le ministère donc, de ma grand-mère par les circonstances dramatiques, et elle a vu que le Seigneur, à ce moment-là, lui indiquait cette solution. Pour ma part, je pense qu'il y avait là de cet extraordinaire que le Seigneur permet. Mais je voudrais quand même dire deux choses à ce propos, et c'est bien sûr entre nous, avec la franchise que nos rapports peuvent avoir. Bon, une première chose qui a un caractère assez général. Je pense qu'on ne peut pas considérer que cette situation subordonnée dont il est question dans les textes puisse être restreinte au couple marié, à la situation du mariage. Bien que ce soit spécialement dit à ce propos, c'est dit aussi à d'autres propos, et si Dieu institue ainsi le rapport conjugal, ça ne peut pas être sans une correspondance dans le reste de toute la vie. Autrement, ce serait arbitraire. Si ailleurs, il n'y avait pas du tout de situation de subordination, quelque chose qui puisse s'y rattacher, pourquoi Dieu le déciderait-il dans le mariage ? Donc, il me semble qu'on ne peut pas dire qu'en se soumettant à son mari tant qu'elle avait son mari, ma grand-mère, donc là, obéissait au texte biblique, mais qu'une fois que le mari était mort, alors ça ne jouait plus du tout. Il reste qu'elle s'est mise comme en dehors de l'ordre habituel, de la structure régulière instituée par Dieu, en ayant le poste d'autorité à la tête de l'Église. Ça, il me semble qu'elle l'a eu, elle a enseigné avec autorité. Selon les termes de Timothée 2, elle a fait ça dans notre Église, c'est sûr. Alors, moi je pense que c'était, dans la volonté de Dieu, un ministère extraordinaire.
Exceptionnel,
oui. Mais, alors deuxième chose, bon, je vous avoue que je pense que ma grand-mère ne l'a pas interprété comme cela. Et je le déplore, pour ma part. Je crois que parce qu'elle n'avait pas eu, entre autres, une formation biblique et théologique, n'est-ce pas? Elle s'est formée elle-même, mais elle n'a pas suivi de cours nulle part, elle n'avait pas accès au texte original non plus, etc. Elle s'est laissée prendre à certaines mauvaises exégèses du texte biblique. Et qu'elle a adopté presque, ou à peu près, le modèle identitaire, dans des bornes chrétiennes, mais quand même, ce modèle-là, et je ne pense pas que c'était entièrement conforme à l'Écriture. Je pense que ça a été dommage.
Je crois que quelquefois le Seigneur se plaît
à faire des choses extraordinaires, à faire les choses contrairement à ce, qui nous, à ce que nous trouvons normaux.
Oui. Et même contrairement aux règles qu'il a lui-même établies pour la normalité, disons, pour ce qui est habituel. Et Dieu se plaît pour montrer justement qu'il est le Dieu vivant, qui est au-dessus de ses propres dispositions.
D'autre part, Dieu a créé la femme pour être une aide à l'homme. Ça veut dire que l'homme n'est pas complet. Donc il a besoin d'une aide. Et je crois que l'homme ne peut être complet que quand il est marié, on peut dire. Comme la femme, pour la femme, c'est la même chose. Et je ne peux pas dissocier les deux choses.
Oui, alors là, moi je vous dis à peu près oui et non, oui, à la fois. Nous revenons un peu à des sujets que nous avons déjà touchés, mais c'est tout à fait bien, c'est le rôle de notre séance aujourd'hui. Il me semble juste de dire que l'homme n'est pas complet pour être l'humanité, pour représenter l'humanité. Ça, c'est bien la pensée de Genèse 1 et 2. Mais je crois qu'il faut écarter la pensée qui serait alors celle du modèle de la complémentarité, du modèle bipolaire, vous voyez, que j'ai justement critiqué, écarter la pensée que l'homme en tant qu'individu humain n'est pas complet, il doit être marié pour être complet. En tant qu'individu humain, il peut avoir une existence, je crois, tout à fait épanouie, répondre entièrement au plan de Dieu pour l'être humain qu'il est, sans être marié. Ça, je crois qu'il faut, l'affirmer aussi bibliquement, non seulement parce que ce serait autrement quelque chose d'extrêmement dur pour les personnes qui ne sont pas mariées, mais aussi parce que, justement, il faut préserver la pensée que tout individu humain est pleinement humain. Il ne peut pas représenter l'humanité à lui tout seul, car l'humanité est marquée par la dualité des sexes. Donc, il ne peut pas dire « je suis totalement indépendant comme être d'un rapport à l'autre sexe ». Mais pour l'accomplissement de sa personnalité, masculine ou féminine, il n'est pas indispensable qu'il soit marié. Je crois vraiment qu'un Corinthiens 7, et même déjà des textes de l'Ancien Testament...
Je pensais que c'était une exception. Quand un homme ou une femme est appelé au célibat, c'est une chose exceptionnelle.
Oui. Moi, j'irais moins fort que ça. Je dirais, oui, que Dieu a prévu, comme le régime habituel pour l'humanité, le mariage. Ça, je pense que c'est bien à comprendre de Genèse 1. Et bon, j'ai parfois envie, je vous le dis, dans notre église même, devant certains qui ne se marient pas, de leur dire, mais vous devriez me poser la question un peu plus, est-ce que vraiment vous avez cette vocation un peu spéciale de ne pas vous marier, disons, il n'est pas nécessaire d'avoir un chemin d'Abbas particulier pour se marier. Mais non, je crois que c'est parfois triste qu'il y a aussi des craintes qui ne sont pas selon la foi à ce propos. Bon, j'ai parfois envie. Donc, je vais là-dedans, dans le sens de ce que vous dites. Mais, en même temps, il me semble qu'il faut plutôt parler comme l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 7 en disant l'un a ce charisme, l'autre a cet autre charisme. Et là, il parle du charisme du mariage et du charisme du célibat. Et en particulier dans 1 Corinthiens 7, Paul ne semble pas dire qu'il faudrait que tous soient mariés. Il y a le moins qu'on puisse dire dans 1 Corinthiens 7. Alors bon, il le dit en vue de la détresse imminente. Bon, je crois que c'est ce qui nous permet de comprendre et d'articuler ce chapitre avec l'enseignement où le mariage paraît plutôt l'ordinaire. Mais bon, il y a quand même ce passage. Et je lutte contre... Donc l'idée qu'un individu ne pourrait pas, sans se marier, accomplir pleinement le plan de Dieu à son égard, ou que ce serait une telle exception qu'il y faudrait un miracle. Bon, je ne pense pas quand même que l'idée de miracle soit associée à cela dans la pensée biblique. Il peut s'accomplir, c'est aussi une voie de charisme prévue par Dieu.
Même sans vocation religieuse.
Et même sans vocation religieuse, oui.
Je crois que le Seigneur trace le chemin de certaines personnes de sorte que, par exemple, dans ce qu'il fait, le célibat est le plus convenable. Par exemple, pour l'apôtre Paul, avec ce ministère itinérant qu'il avait, le célibat était pour lui le plus convenable.
Enfin, le célibat n'est pas forcément volontaire. Souvent, il est provoqué, en tout cas, par les événements. Il y avait des célibataires qui auraient bien voulu se marier, mais qui sont restés célibataires. C'est pas forcément une vocation.
Non, c'est pas forcément une vocation, dans le cas où c'est une vocation.
Oui. Je pense que M. Jacques Richard va un peu parler aussi sur ce point, alors je lui laisse la parole.
Justement, je trouve assez curieux que quand il s'agit de la femme, ce sont surtout les hommes qu'on entend, et je souhaiterais vivement savoir comment les sœurs qui sont parmi nous et qui ont suivi et participé à ce. Se faire l'étude, ressentent les choses qui ont été dites ici, les conclusions et la manière dont, dans le cadre de l'église du tabernacle, on vit cette réalité de notre masculinité et de notre féminité sous le regard de Dieu.
Je remercie bien Jacques de faire cette invitation.
J'ai bien compris ce que tu as dit tout à l'heure et je n'avais pas perçu ça d'une manière aussi claire, ou bien l'as-tu dit la dernière fois, où je n'étais pas, que la femme était sous l'autorité de tous ses frères, finalement, dans le cadre de l'Église, et pas seulement sous celle de son mari.
Non, je ne voudrais quand même pas m'exprimer comme ça, non. Je veux dire plutôt qu'on ne peut pas considérer que de la subordination, pour employer le terme que Paul emploie, de la femme dans le mariage soit sans correspondance avec la situation dans l'Église et dans tous les rapports de la vie sociale. Alors je ne dis pas que la femme est sous l'autorité de ses frères, je dis que les rôles d'autorité dans l'Église ne sont pas ordinairement dévolus aux femmes, d'après 1 Timothée 2. Et qu'on ne peut pas donc isoler totalement la situation conjugale de cette situation d'église, de structure d'église. Mais je ne considérerais pas que tous les frères ont comme telle une autorité que n'auraient pas toutes les sœurs dans l'église. Ça ne me paraîtrait pas une pensée biblique, cela. Mais c'est quant au ministère d'autorité dans l'église qu'il me semblera plus ordinaire que ce soit des frères que des sœurs d'après les textes du Nouveau Testament.
Je voudrais savoir dans quelle mesure et quel est le danger aussi cette autorité, je dirais de l'homme peut s'appliquer. En effet, au moment où l'apôtre Paul écrivait ces lignes, on peut dire que le nombre des femmes était absolument inculte pour la grande majorité. Aujourd'hui, notamment depuis la révolution de l'enseignement fusion féminin, les femmes acceptent de plus en plus au même degré de culture que les hommes. Et je crois que ça se vérifie de plus en plus. Comment peut-on en même temps concilier ça et ne pas les comprendre ce
Oui, alors, je réponds juste en deux mots parce que j'aimerais encore nous faire s'exprimer un petit peu dans les minutes qui restent. Mais il me semble que les textes bibliques montrent que nous ne pouvons pas réduire à ces considérations, disons, temporelles limitées, la portée des textes que nous avons trouvés. Mais d'autre part, le rôle des stéréotypes, la souplesse dans l'application de la grande règle, nous permet de prendre en compte ce facteur culturel nouveau que vous avez évoqué. Et si la Bible a respecté en général comme utile un certain nombre de stéréotypes, sans les bouleverser, mais sans en faire non plus des carcans, alors je pense que la modification des stéréotypes en notre temps peut aussi être admise dans l'Église. Ça me paraît une conséquence assez logique.
Mais, j'aurais voulu poser une question assez pratique. Est-ce que l'Église considère que l'enseignement donné aux enfants à l'école du dimanche sous-entend un rôle d'autorité de la part de ceux qui donnent l'enseignement ou bien est-ce que c'est un rôle mineur Parce qu'on peut remarquer que c'est essentiellement des sœurs qui donnent cet enseignement aux enfants.
Jacques,
je vais ajouter une petite pièce au dossier sur le plan de la statistique. Dans l'enseignement, si j'en juge par l'établissement où je suis dit, nous sommes environ 70 professeurs, il doit y avoir une quinzaine d'hommes. Et il semble que ce soit grosso modo la proportion.
Dans une série, c'est la même chose.
C'est à peu près, c'est à peu près la même chose.
Un homme. Un homme et 11 femmes.
Alors moi je rapprocherai, j'ai tenté de rapprocher ça de ce rôle pédagogique, de cette planification de la langagière.
Bon, alors là, malheureusement, nous manquons de temps pour développer le point en cause. Nous en avons un peu parlé la dernière fois quand même. Je dirais que Paul me semble avoir en vue un enseignement d'autorité qui diffère assez fortement du type d'enseignement qui se dispense dans les écoles aujourd'hui, dans la société en général, ou même dans le travail de l'école du dimanche. Qu'il s'agit de la garde de la saine doctrine, tout spécialement. Qu'il s'agit de cet enseignement qui décide du vrai et du faux dans la vie de l'Église. Il me semble que c'est donc cette orientation-là, et c'est pour ça qu'il y a quelques instants, je disais, les degrés d'autorité de diverses formes d'enseignement diffèrent beaucoup. Deuxièmement, cependant, on ne peut pas non plus là faire de distinction absolue de tout ou rien. Il me semble qu'il est indéniable que que l'enseignement aux enfants d'école du dimanche détient une parcelle d'autorité aussi. Mais en ce qui concerne cet élément d'autorité qui est associé à l'enseignement des enfants, alors il me semble que vraiment il n'y a aucun problème biblique avec les textes formels. D'abord parce que Paul précise dans 1 Timothée 2 que c'est à l'égard de l'homme, que cette structure générale ne doit pas être abolie, qu'il prévoit expressément que des femmes enseignent des femmes dans l'épitratite, par exemple, on commence par là, et à l'égard des enfants de tout sexe, le livre des Proverbes évoque à plusieurs reprises l'enseignement de la mère. Le livre des Proverbes, donc, je dirais vraiment, c'est l'idée qu'il y a un enseignement. Alors, l'enseignement de la mère dans le livre des Proverbes, je ne dirais pas qu'il était pourvu d'autorité, mais il joue dans cette structure globale pour laquelle il ne faut pas se crisper, qui n'est pas une structure de tout ou rien, mais une certaine économie de disposition de la part de Dieu. Alors je crois vraiment, ça je crois que Madame Patin le sait, qu'il devrait y avoir plus d'enseignants masculins pour des raisons disons d'effets psychologiques profonds sur les enfants, aussi bien à l'école du dimanche d'ailleurs que dans le primaire et le secondaire français. Je crois que beaucoup en sont d'accord. Mais en tout cas, il me semble que le fait que l'enseignement des enfants soit remis sous la garde générale des responsables de la doctrine dans l'Église, soit remis à un certain nombre de dames et de jeunes filles, mais de dames et de demoiselles, est tout à fait dans l'ordre biblique. Que là, il n'y a vraiment pas de difficulté.
On parle de stéréotypes et puis de possibilités culturelles. J'ai lu le livre d'Esther et le roi Achiérus, qui a demandé à sa femme de venir. Et le décret qui a été ordonné et qui a été envoyé dans tout son pays, dans tout le royaume. Et je disais aussi que certains stéréotypes, Dieu n'a pas essayé de décarter. Et là, il me semble, l'histoire pour le peuple d'Israël, peut-être pour toute l'histoire, il s'en est servi aussi.
Et même des passions plus ou moins pures d'Assuérus là. Oui, je crois qu'on peut l'observer. Dieu souvent, me semble, dans ses manières de faire scripturaires, moins rigide, moins bloqué, je dirais moins fanatique que souvent les chrétiens ne l'ont été. C'est pour ça que malgré la force de certains textes de Paul, si je les prends dans le contexte global, je me sens, disons, en bon droit, sans de dire des ministères, même d'autorité, tout à fait prononcés, peuvent être suscités par Dieu. Il en a la liberté, c'est extraordinaire, nous ne méprisons pas l'économie qui nous dit avoir établi pour les, ce qui est général, mais il a la liberté de le faire, ne nous bloquons pas là. Et puis de toute façon, cette économie même, c'est du plus et du moins, c'est pas des distinctions d'absolue différence.
C'est une question que j'adresse à nos sœurs et à nous tous en même temps, que je vous pose. Pourquoi avons-nous abordé ces questions-là? Sur quoi débouche-t-elle donc? Et est-ce que nos sœurs parmi nous, parce que si je résume très grossièrement et d'une façon peut-être caricaturale ce qui a été dit, au fond, la femme est très bien envoilée. Exceptionnellement, elle peut sortir, elle peut faire autre chose, mais grosso modo, l'évangile sanctionne. Alors, est-ce que nos
sœurs... J'espère quand même que c'est pas ça que je veux faire.
C'était intentionnel.
C'était
intentionnel. Est-ce que nos sœurs sentent leurs frères dans l'église trop dépendants des stéréotypes actuels dans nos attitudes, dans nos relations avec nos sœurs au sein de l'Église, dans la manière dont nous exerçons les dons, les services que Dieu nous a demandé, nous a confiés? Est-ce que nous ne sommes pas assez indépendants du courant actuel? Est-ce qu'il y a quelque chose à revoir? Alors j'ai l'impression qu'on est peut-être mal placé, nous, pour bien les voir, et que peut-être nos sœurs pourraient nous aider à mieux les discerner. À charge de revanche, si c'est nécessaire, en fait, vous n'êtes pas dans cette situation-là que je me situe.
C'est pas, étant donné l'heure qui est venue, je pense qu'il faudrait que, ou bien nos sœurs parlent maintenant, de façon relativement brève, mais enfin je crois que vraiment. La balle est dans leur camp, mais que pas d'autres interviennent. Je pourrais dire finalement ce que j'avais mis comme dernière ligne dans mes notes, et puis nous pourrions à ce moment-là considérer que la séance serait levée. Mais nous avons
que
parler.
Excuse-moi, je regretterais que nous n'ayons eu finalement que des exposés, dont j'apprécie bien sûr toute la valeur, comme les autres, mais que nous ne puissions pas.
Déboucher
des choses tout à fait concrètes, et je me demande s'il ne faudrait pas prévoir une autre réunion où peut-être que nos sœurs pourraient préparer quelque chose qu'elles nous communiqueraient et sur lesquels nous pourrions réfléchir à la lumière de l'Écriture sainte.
Oui, moi je souhaite, je l'ai dit au tout début, n'est-ce pas, il faut que ça débouche sur autre chose que cette séance-ci.
Dans la mesure où M. Moukari est là, est-ce qu'on ne pourrait pas, disons, exceptionnellement de nous donner une séance de plus qui serait uniquement la séance de discussion et de conclusion?
Il y a un petit problème supplémentaire là, c'est que le 17 janvier, qui est le jour prévu pour l'Institut biblique, je ne suis pas là. Donc ça ne pourrait pas être une séance d'Institut biblique. Moi, je verrais assez une séance qui soit hors Institut biblique.